Ok.
Pourquoi on
n'est pas en Tachanoun en Nissan? Parce que les 14, les 7, les 12 premiers jours correspondent aux 12 jours d'inauguration du sanctuaire dans le désert. C'est des jours de fête. Après le 14, on sacrifie. Le 13, c'est un jour vide. Ok. Le 14, c'est le sacrifice pascal, Korban Pessah. Après, il y a la Moed, et après, il reste encore 7 jours. Vu que la majorité du mois est passée sans dire Tachanoun, on est fini. Plus profondément, c'est marqué que l'inauguration du temple que nous attendons pour très bientôt aura lieu pendant ces 7 jours-là. Et on est extrêmement déçus que ça n'a pas eu lieu ce mois de Nissan. Mais on espère que c'est pour très bientôt quand même.
Alors, l'année prochaine, si on dit ça, non ?
Tu me lances sur le sujet.
Ça ne peut pas arriver avant ?
Ça peut arriver avant.
Et si on dit que c'est pendant Nissan, alors comment ça peut arriver avant ?
C'est marqué qu'en Nissan et Galou, en Nissan ont été sauvés, en Nissan ils vont être sauvés. Ça veut dire que ce n'est pas forcément comme ça, c'est Mesougal, ça veut dire que c'est une date qui est propice. Maintenant aussi, quand on dit Géoula, qu'est-ce que c'est Géoula ? Lorsqu'on est sorti d'Égypte, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va libérer Am Israël. Dis-leur, Pakot Pakate, je décide maintenant de vous sauver. Et à ce moment-là, exactement, Pharaon décide d'accentuer l'esclavage. Ah, vous voulez sortir d'Égypte, vous pouvez aller maintenant aller servir Dieu dans le désert. Eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Mettez deux fois plus de travail. Donc, ce que Hachem appelle maintenant la Géoula, en fait, c'était le pire de l'esclavage. C'est-à-dire, quand dans le ciel, on dit Géoula, le temps que ça descend, c'est comme une femme qui accouche. On dit, ok, allez, elle accouche. Eh bien, elle dit, c'est la partie plaisir qui a commencé. Elle souffre terriblement. Entre le moment où commence la Géoula et où elle finit, il y a un laps de temps. Et c'est la partie qui est la plus dure de la Géoula. Il se peut que ce que Chazal ont dit, qu'en Nissan on va être sauvé, ça veut dire que l'ordre de sauver commence. Mais c'est le moment que, parallèlement, il se peut qu'il y ait toutes les tsarot aussi. Bon, vous commencez sur le sujet, je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Évidemment, on ne sait pas ce que nous réserve le futur. Et on peut dire qu'en gros, si jusqu'au 28, il n'y a rien qui se passe, eh ben, toutes mes dates à moi, c'est terminé. On attendra Betmimut, Bezrat Hashem. Mais il faut comprendre qu'on est... Le monde se trouve à un milligramme de millimètre. Que une donnée change, tout bascule. D'abord, on voit une chose très curieuse. Comme j'en ai parlé dans un cours que j'ai fait dernièrement, les masques tombent. Que... Au mois de Nissan, ont été entérinés, donc la coalition israélienne a eu lieu, du gouvernement, avec un gouvernement qui est clairement anti-religieux, qui veut clairement la fin de la Torah. Clairement. C'est très nouveau, très surprenant et très clair. C'est bien d'un côté que le mal dévoile son vrai visage. Ça a lieu au mois de Nissan. Donc ça correspond à ce que j'ai dit, que lorsque la Géoula commence aussi, à ce moment-là, il y a tout un mal qui commence. Regarde dans la Megillat Esther. Megillat Esther, quand commence, il y a certains versets qu'on dit à haute voix. Un des versets, c'est Balaïla Ahun Nedash Anatamelech. Cette nuit, le roi n'a pas bien dormi. On sait quand c'est marqué dans la Megillah le mot le roi tout court, ça peut faire allusion à Dieu. C'est marqué le roi Achashverosh, c'est le roi Assuréus. Mais quand c'est le roi tout court, des fois c'est Dieu, des fois c'est le roi lui-même. Khazali, c'est Dieu. Dieu qui n'était pas tranquille. Comment vous voulez maintenant anéantir mon peuple ? Et là, commence tout le... des choses bizarres. Et Bnei Israël, à ce moment, qu'est-ce qu'il faisait ? Il jeûnait par terre, en train de pleurer. C'est le moment le plus dur de la Géoula de Pourim, elle est quand Hachem est inquiet et décide maintenant on va sauver Am Israël. Mais on voit qu'il y a une inquiétude. Donc là, on voit que pendant ce mois de Nissan, deuxième chose très surprenante, 4 jours environ après qu'il y ait la coalition, donc le gouvernement qui a été élu et formé, vient le président des États-Unis, M. Obama. 3 jours, il reste ici. 3 jours. 4 jours après la coalition. Laisse-nous le temps de respirer. Viens, dans un mois, j'arrive, on dit bonjour. 3 jours après, il est là. 4 jours après, il est là. Il reste pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il fait pendant 3 jours? Bon, on veut avancer avec les Palestiniens, machin, tout ça, dire bonjour, aller s'ouvrir, machin. Qu'est-ce qu'il a fait avec eux ici, tu crois? C'est très clair. Il y a une rivalité depuis la Seconde Guerre mondiale entre la Russie et l'Amérique. L'Amérique, elle veut avoir ses prises au Moyen-Orient. La Russie aussi. Un temps, la Russie était en Égypte et s'est fait éjecter. Elle était en Irak, éjectée. Elle est où? Il ne reste plus que la Syrie. Maintenant, le représentant de la Russie en Syrie, c'est Bachar el-Assad. Il est en train de se faire descendre. C'est clair que c'est une question de temps. Quand ça sera, on ne sait pas. Le Midrash, il dit, c'est un Midrash, Rabbi Shimon bar Yochai a écrit le Midrash des Géonim, voici le signe qu'on viendra le fils de David, quand tombera le Néron oriental de Damas. On m'a écrit que déjà 3 fois dans les médias arabes, on l'a appelé Néron oriental de Damas, Bachar el-Assad. Et valeur numérique du mot Néron oriental en hébreu, Néron Mizrahi, égale à Bachar Assad. Bon, c'est sympa. Il y en a eu d'autres comme ça dans l'histoire et il n'y a rien eu pour finir. Mais on espère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le jour où Bachar Assad il tombe? Il y a une rivalité. Qui prend maintenant cette place vacante? La Syrie. C'est énorme, c'est un truc. C'est... La Syrie est entourée au sud par Israël. Au nord par la Turquie. Deux pays pro-américains, mais Israël et Turquie ne peuvent pas se voir. Ils sont en plein... Obama vient et dit à Bibi, tu fais la paix, t'appelles maintenant Erdogan, le chef du gouvernement, tu fais la paix avec la Turquie. Oui, monsieur, il a paix, on fait la paix. Ils ont fait la paix.
Ils ont fait la paix?
Oui. Ils me sont excusés, Marmara, maintenant, ils ont fait la paix. Pourquoi ils ont fait la paix? Ben, bien sûr. L'Amérique, elle regarde un peu en avant. Dès que Bachar Assad y tombe, il faut... Ce terrain-ci, c'est pas maintenant l'Amérique qui prend, c'est la Russie avec qui elle est là-bas. Al-Qaïda, Hezbollah, toutes les horreurs du monde sont là-bas. Donc l'Amérique, elle prépare le terrain. Dès que Bachar y tombe, Israël, la Turquie, la Jordanie aussi qui est pro-américaine, ils vont rentrer là-bas. C'est clair. Maintenant, la Russie va laisser faire? Je ne sais pas. Puis il y a du chimique là-bas. La semaine passée, le ministre de la défense israélienne est allé au Golan. Et la première fois qu'il a dit, c'est la première fois qu'il y a un truc officiel israélien qui a dit, si jamais, on ne laissera jamais le Hezbollah ou l'Al-Qaïda arriver aux armes chimiques. Maintenant, ils ont conquis maintenant une ville qui s'appelle El Safira. Et là-bas, juste à côté, il y a la base des trucs chimiques. Ils sont tout proches. Ils se rapprochent. Ça veut dire que nous, on est pépère, on fait Baba Kama, on passe à Ktubot, Baruch Hashem, on tue la Gottoa, tout ça. Mais la montre, elle avance. C'est certain, je dis, ça peut arriver d'une seconde à l'autre. Berachamim, on espère. Maintenant, peut-être qu'il n'y aura rien aussi. Puis tu sais, ça fait, ceux qui me connaissent, ça fait 30 ans que j'ai des comme ça, des très beaux... prédictions sur le futur qui se réalise jamais. D'accord? Voilà, c'est où on en est. On ne sait pas ce qui va se passer.
Le Vatican, alors?
Le Vatican? Il est en perte de vitesse complète. J'ai deux personnes qui m'ont écrit la semaine passée. Je suis chrétien, j'ai 60 ans. Je comprends que la chrétienté, tout ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que... C'est des croyants. Il dit, est-ce que j'ai une chance de faire tchouva, que Dieu me pardonne? Je lui dis, oui. Vous devez bien comprendre que Jésus, c'est un canular. Il a toutes ses plus croix, ses sornettes. Et ben,
mais il y a un rapport avec nous, avec Israël?
Non, il y a un rapport que les masques tombent, toutes les forces mensongères tombent, tous les trucs, tu regardes, tout, ça tombe. Tac,
personne
tac,
ne ressent rien? Comment ça se fait?
Hein?
Personne ne ressent rien?
C'est marqué que le Machar, il vient Besser Hadat. Le Machar, il vient dans l'inconscience. Il faut rester inconscient. Et même qu'on est conscient, combien t'es conscient? On est complètement inconscient. Mais tu regardes, ce que je te dis maintenant, ça tient la route. L'euro qui est branlant, le dollar qui est branlant, la Corée du Nord qui menace une guerre atomique, vraiment une guerre atomique. Les Américains,
faire.
Les vrais faire.
Hein ? Non, entre eux là-bas. Avec l'Amérique, parce que Obama envoyait les avions américains en Corée du Sud. Là-bas, le chef du gouvernement, il a moins de 30 ans. Un fou comme son père, d'accord ? Il a menacé maintenant, il va attaquer l'Amérique. D'accord ? Enfin, il va attaquer la Corée du Sud, c'est-à-dire l'Amérique, se défendre là-bas, et il a la bombe atomique. Il a la bombe atomique. C'est des malades.
C'est sûr.
Quelle bombe atomique ? C'est clair, bien sûr. C'est archi connu. Il y a un Zohar, dans Vaïra, page 32, il dit comme ça. Il dit que les Arabes vont faire 3 guerres de terreur à la fin des temps, et que tous les Occidentaux vont venir les attaquer. Il y aura une guerre entre les Arabes et les Occidentaux. Et viendra un pays du bout du monde attaquer l'Occident. Et là, tout le peuple va se mettre en guerre, hein, et à la fin, Machiach arrive. Hein.
Il y a une chance qu'il vienne vraiment avant l'an 6000, le Machiach ?
C'est obligatoire qu'il vienne avant l'an 6000. En l'an 6000, le jugement de Dieu, le grand dernier jugement de Dieu, qui doit avoir lieu après l'époque messianique, qui doit durer au moins 40 ans, après résurrection des morts, qui doit durer aussi un certain temps, il y a une période de résurrection des morts. L'an 6000, c'est la fin, ce monde-là, il est détruit, on passe dans une autre ère, une ère spirituelle. Jusqu'à là, doit se passer beaucoup, 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 beaucoup de choses.
Alors, est-ce que les souffrances, pas militaires, ça s'appelle les souffrances du Machiach, tous les problèmes qu'il y a, les maladies...
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Déjà, ils s'en sortent pas, en vrai.
Ils s'en sortent, c'est la fin des haricots. C'est marqué, la vigne donnera son fruit et le vin est cher. C'est-à-dire que d'un côté, t'as une abondance extraordinaire. Il y a tout. Mais les gens finissent par leur moi. Voilà, il y a plusieurs signes. À la fin de Maseret Sota, il y a Ben Breta qui dit les signes avant que Machiach revienne, au niveau de la qualité morale. Débauche terrible, shlom bayit à la panim, terrible, shlom bayit, l'entendre dans les couples. C'est-à-dire que la belle-fille qui se lève contre sa belle-mère, d'accord, les bagarres dans les familles, catégoria, dans Ktubot, c'est marqué, c'est la fin de Ktubot, catégoria, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, accusation contre les étudiants de Torah, d'accord, aujourd'hui, était au fin fond du bas de l'échelle sociale possible, imaginable, c'est tout à fait normal, voilà. On espère que c'est pour bientôt. Nafkamina pour nous.
Dieu l'a prévu ça. Ouais. Parce que ça, c'est des choses qui incluent le libre arbitre. Comment ça se fait que Dieu l'avait prévu que le peuple il allait chuter, quoi. C'est le par exemple la prise de soude, vous avez dit la débauche.
Je vais t'expliquer c'est pourquoi.
Il n'y avait pas de libre arbitre sur cette
en 5 minutes, je vais t'expliquer en 5 minutes. Il y a un tikkun à faire. Il y a le premier homme, il a péché. Toutes les parties de divinité, de l'humanité, parce que le premier homme, c'est l'humanité, il a toute l'humanité en lui, elles sont tombées très bas dans le mal. Le job d'Am Israël, c'est d'aller récupérer ces étincelles de sainteté, ces parties d'âme, en faisant le tshuva, par l'étude de Torah, par l'accomplissement de mitzvot, ou, s'il n'y a pas tout cela, par la souffrance, on fait ce job-là de faire remonter ces étincelles. Maintenant, à mesure que l'histoire avance, ce travail se fait. Plus on avance, plus il faut aller chercher les dernières étincelles. Elles sont où ?
Elles ne retombent pas les étincelles, vous avez raison.
Oui. Ok, mais il y a des souffrances, alors ça va. Les souffrances, elles font remonter. Mais le tikkun, il avance. Maintenant, plus le tikkun, il avance, plus cette réparation, il avance, plus on va chercher les étincelles qui sont où ? Qui sont le plus bas ? Elles sont où ? Elles sont d'un niveau de bassesse terrible qui est ce qu'on a aujourd'hui. Que tu as un État occidental qui, officiellement, dit que l'homosexualité, c'est permis. D'accord ? T'as pas le droit de dire un truc mauvais sur un homosexuel. Tu vas en prison en tôle pour ça. D'accord ? Il faut le faire. D'accord ? C'est dangereux de dire ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de bassesse, de débauche terrible. Pourquoi ? Parce qu'on est au dernier moment du mal. Donc on laisse le mal arriver au plus bas niveau qu'il est. Il y a ce qui est encore ici à ramasser de dire la chose. Tu vois qu'il y a des gens qui font tout à cause de ça. Si aujourd'hui le monde occidental était moral, était bien, c'était bien, il y avait une moralité, on est bien, pourquoi faire tchouva ? Quand les gens, ils voient, ils tournent à gauche, ils voient débauche, ils tournent à droite, ils voient shambait à la panne, partout, tout ce qui va, drogue, débauche, mésentente, tout saute de tous les côtés, mais ils lèvent la tête vers Dieu. Donc quelque part, c'est bien, c'est nécessaire pour le tikkun, c'est qu'on descend très très bas, au niveau du mal. Le mal, donc ça amène toutes ces choses mauvaises.
Fauter, c'est des missionnaires qui...
C'est pas que ça fait fauter, c'est que Hachem maintenant amène des âmes sur Terre qui sont des âmes les plus mauvaises qu'il y a. Et chez elle, il y a aussi une partie de bien. Donc on va faire le tikkun maintenant, elle prend ce bien.
Et elle, le mal,
le mal, enfin, disparaît. Le mal disparaît. Le jour où Mashiach il arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est un très bon exemple qu'a donné. Qui a dit ça dernièrement? C'était. Ah! Le Rav. David Auerbach, qui est un des Rosh Yeshiva de Yeshiva de Brisk. Alors qu'on dit qu'il a reçu de son père, qui a reçu du celui qui chauffait le four de la boulangerie de Chabad à la Véville il y a presque un siècle, qui avait entendu que quand il était petit de son père, qui a entendu lui-même du rabbi Noam Elimelech, le rabbi Elimelech de Lizensk, qui était un des grands de ce monde-là. Il lui a dit trois choses que le rabbi Lizensk faisait comme ça. C'est au Dach Chit, il parlait un tiers Torah, deux tiers Mashiach, comme un peu sur la Yeshiva tous les jours. D'accord? Un tiers Torah, deux tiers Mashiach. C'est au Dach Chit. Il a dit trois choses. Alors, les deux, là, je ne m'en souviens pas très bien maintenant, mais une, il a dit, qu'on a entendu ça, c'est tellement vrai. Il a dit qu'à la fin des temps, ça sera comme un tamis. On tamise la farine. Et quand on, dans le tamis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bonne farine qui tombe, et tu as les déchets qui restent. Et quand on tamise, on secoue comme ça. Alors, ils sont secoués. Alors, et la farine, les gens bien, et les déchets, les gens pas bien, le mal, ils sont ensemble, ils sont secoués. Ils disent, ah, qu'est-ce qu'on souffre? Puis tout d'un coup, le mal, il voit que le bien, il tombe. Il dit, ah, pauvre type, misken. Déjà, il s'est fait cogner comme moi. Maintenant, de nouveau, il retombe encore. Il ne comprend pas que dans deux secondes, on va prendre tout ce qu'il y a dans le tamis, jeter ça à la poubelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu comprends? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le monde religieux qui est tout au bas de l'échelle, on tombe dessus, et des xérotes, et des décrets, des machins, le casser, tac, 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 tac. Comme du temps de Pharaon. Pharaon, il a dit, il a eu peur que le monde israélien, le monde juif en Égypte, il grandisse trop. Et pen irbe, de peur qu'il grandisse, on va faire toutes ces sanctions contre lui. Et Chazal ont dit, toi tu dis pen, tu dis de peur, moi je dis ken, je dis oui, il va grandir. Et c'est ça qui a fait qu'il a grandi en et encore plus. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi le monde israélien laïc, il fait toutes ces sanctions. Il comprend que le monde religieux devient de plus en plus important, grand. Ils ont tort que demande même un peuple religieux. D'accord? Et eux, c'est les auteurs de cette grande dépression qui est dans le peuple d'Israël pendant le dernier siècle et demi, la Scala, etc., qui a fait que la Torah a disparu du peuple d'Israël. Maintenant, ils voient que ça revient. Ils veulent pas. Donc, il y a tous ces décrets-là. Mais d'un côté, c'est ce que Hachem est en train de tamiser. Il fait maintenant, ce que je dis, les masques sont en train de tomber. Il y a un bureau et une clarification de quel côté tu es, de ce côté ou de ce côté. Et tu vois qu'il y a des gens qui, tout à coup, ils perdent la tête complètement, ils font des trucs complètement absurdes, des mêmes religieux, ils deviennent non-religieux, ou ils font des trucs complètement tordus. Et tu vois d'autres qui étaient à perpète les oies, qui reviennent tout à coup. C'est clair, c'est le dernier, voilà.
Encore se différencier de plus en plus là.
Je ne sais pas quand le tikkun doit terminer, mais qu'aujourd'hui on voit clairement qu'actuellement, tu vois, tu as la vérité qui va arriver dans ce monde. Et tu vois que les masques tombent, chacun on voit qui il est vraiment. Et Hachem ne laisse personne. Lentement, tac, chaque chose, chacun prend sa place où il est vraiment. Bah, ou Hadonai, Amen.